Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille Kelly, la fondatrice de la marque pour cheveux texturés Les Secrets de Loli. Le parcours de Kelly force admiration. Placée en famille d'accueil au début de son adolescence, Kelly souhaite poursuivre des études supérieures, mais rapidement, elle réalise qu'elle ne pourra pas combiner études et autonomie financière. Elle décide alors de commencer à travailler, et en parallèle, écrit pour un blog sur le cheveu texturé. Lui vient alors l'idée de développer des produits vraiment adaptés aux cheveux bouclés, frisés ou afro, qui étaient alors très peu adressés sur le marché. Une idée qui cartonne, alors qu'elle les développe encore dans sa cuisine, ses amis lui en redemandent toutes des pots. Aujourd'hui, les secrets de Loli, c'est plusieurs millions de chiffres d'affaires et une entreprise florissante, Kelly nous partage les recettes de son succès ces 10 dernières années. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Kelly Massol. Bonjour Kelly.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power. Je suis très contente de te recevoir. J'ai entendu beaucoup de choses à ton propos et à propos de ton entreprise. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Ok. Donc, je suis Kelly Massol, la fondatrice de la marque pour cheveux texturés, Les Secrets de Loli. Et en fait, c'est une entreprise que j'ai créée dans ma cuisine en 2009 en tant qu'autodidacte.
J'adore. Alors, qui étais-tu avant 2009, avant qu'on comprenne les prémices?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que très tôt, je me suis posé des questions par rapport à mes cheveux. Mm-hmm. Et donc, en sortant de mon adolescence, j'ai commencé à vouloir trouver des alternatives pour m'occuper de mes cheveux naturels. Et donc, de mes 21 ans à mes 25 ans, jusqu'en 2009, je militais plutôt pour la cause du cheveu naturel en France. J'ai créé un forum qui s'appelait Boucle et Coton à l'époque. C'était le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu crépus, bouclé, frisé, ondulé au naturel. Et ensuite, quand je me suis rendu compte que le militer pour d'autres, quand tu n'es pas la cible, c'est du bruit. Mmh. C'est bizarre à dire, mais le message, il parvient pas, en fait, à l'oreille des gens.
Ils ne se rendent pas compte.
Donc, du coup, est née l'idée de créer ma propre marque pour pouvoir faire bouger les choses.
J'adore l'idée, parce que surtout qu'en 2009, il n'y avait pas encore cette mode de l'entrepreneuriat, je crois. Moi, j'étais ado, donc je ne m'en souviens pas bien. Mais en tout cas, je sais que ça a plutôt émergé vers 2015-2016. T'as pas eu un peu des barrières psychologiques où tu t'es pas dit, je sais pas, j'ai pas de formation là-dedans, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que tu connaissais un peu des gens dans l'entrepreneuriat?
Absolument pas. Non, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, tu sais, la cause, elle est plus grande que moi. Donc, c'est un moteur qui est différent.
Oui.
Tu le fais, mais tu le fais pour une raison. Et puis, finalement, tu te poses pas autant de questions. Et j'ai pas l'esprit start-up, en fait, plus classique où tu fais une grande école et puis derrière, tu cherches à créer une boîte, soit par amour de la boîte, soit tu te dis, je rentre, je lève de fond, je fais un tour de tour et je sors, tu vois. Je n'ai pas cette culture-là, en fait. Pour moi, créer une entreprise, c'est créer une entreprise avec passion, essayer de servir une cause ou des gens, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et ensuite, voilà. Donc, du coup, des difficultés techniques, forcément, j'en ai eu. J'en ai eu parce que je suis autodidacte en formulation cosmétique. J'ai appris à formuler moi-même mes propres produits dans ma cuisine. Il y a eu des barrières et des freins réglementaires parce que tu dois déposer des dossiers d'information produits ou ce genre de choses-là. Et donc ça, normalement, c'est des gens qui ont Bac plus 5 qui sont censés faire ça. Mais j'apprends constamment. Et en fait, c'était super intéressant. Avec le recul, les difficultés, c'était plus des difficultés. C'est manque de réseau. Bon, le manque d'argent, on a tous un manque d'argent. Manque de réseau, manque de fonds. Et puis aussi, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Vous vendez des shampoings, mais des shampoings, il y en a dans les supermarchés. C'était plus la compréhension du marché. Plus se faire recaler sur le terrain quand on te dit mais il y a déjà une offre et que tu dis non, il n'y a pas d'offre, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Et tu dois faire comprendre et tu passes pour un nuluberlu quand tu dis non, mais il y a un marché, il y a des produits, des cheveux, on doit s'en occuper comme ça et pas comme ça se fait. On dit mais vous n'avez pas une recette magique. Enfin, je veux dire, c'est quoi votre truc en plus? C'est plus ce genre de difficultés-là qui m'ont marqué, en fait.
Ouais. Parce que les autres, en fait, c'est juste en effet peut-être un manque de connaissances, mais qu'on acquiert au fur et à mesure du temps.
Ouais.
Et qui font que, en fait, l'expérience est la meilleure des formations. Ça, je pense que quand on est entrepreneur, on s'en rend vraiment compte. Est-ce que tu te projetais déjà un peu plus jeune dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'avais, tu avais 14-15 ans?
Alors, quand j'avais 14-15 ans, je voulais être avocate. Avocate ou juge, donc ça, c'est... J'ai foiré ma première année de droit et j'ai commencé à travailler très tôt parce que, de base, je suis une enfant de l'ASE. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'aide sociale à l'enfance, l'ADAS.
D'accord.
Parce que je me suis fait placer à l'âge de 13 ans, donc en famille d'accueil. Et en fait, à 18 ans, le processus, en fait, tu deviens jeune majeur et à 21 ans, on coupe tes financements.
D'accord.
Donc, en fait... Soit je faisais des longues études et j'arrivais à me les financer par moi-même en travaillant, soit, et en fait à 21 ans, j'ai essayé le droit, ça n'a pas fonctionné, je me suis mis à travailler parce que je n'avais pas de ressources, de famille derrière pour pouvoir aller dans cette voie-là.
Et alors, tu me dis, hein, si jamais tu n'es pas à l'aise d'en parler, mais alors, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance par rapport à ce que c'est, tu vois, aussi d'être placé en famille d'accueil. Moi, dans mon esprit naïf, c'est une forme d'adoption qui ferait que je ne vois pas trop comment les parents, après avoir passé 5, 6, 7 ans avec toi, peuvent te dire, en fait, à un moment, ciao, démerde-toi. Tu vois.
Alors, il y a plusieurs process. La première, c'est soit effectivement les familles, elles accueillent un enfant et puis elles l'adoptent officiellement. Mais là, c'est... Voilà. Non, c'est un contrat.
D'accord.
C'est un contrat de travail, notamment moi, mes familles d'accueil, lorsque le mois d'août arrivait, j'allais dans une autre famille d'accueil parce qu'elles étaient en congé.
D'accord.
Donc c'est un contrat de travail.
Ouais.
Il y a une relation qui se crée entre toi et la famille d'accueil, plus ou moins forte. Il y a eu des familles où ça n'allait pas, c'était pas, voilà. Il y a eu des familles où les liens étaient très forts, au point où il y en a une qui voulait prendre sa retraite. Elle m'a dit, écoute, moi je pars vivre à Toulouse, est-ce que tu veux venir avec moi ou sinon je prends ma retraite, tu vois. Donc on n'est pas forcément placé, il n'y a pas de contrat d'adoption. Soit tu vas en foyer, donc en fait il y a plein de jeunes, c'est voilà. Et moi j'ai demandé à être placée en famille d'accueil, tu vois.
Pourquoi tu t'es dit que toi?
Parce que c'était une stratégie pour m'en sortir entre guillemets, pour ne pas être livrée à moi-même, parce que ce genre d'établissement, voilà. Et donc du coup t'es seule avec une famille, voire un ou deux autres enfants placés ou pas placés. Des fois c'est des enfants de la famille, donc ça me paraissait être un peu plus sain, un peu plus safe. Et puis surtout, comme je voulais continuer à vivre sur Paris et être sûre de vivre sur Paris, j'avais demandé un placement en famille d'accueil sur Paris parce que j'allais au collège sur Paris. Donc c'est quelque chose qui m'a... Je sais que c'est quelque chose qui a joué fortement en ma faveur, en tout cas dans l'évolution de mon parcours. Ensuite, en ce qui concerne le projet, c'est-à-dire que à 21 ans, le contrat s'arrête entre toi et toi, l'État et l'éventuelle famille d'accueil, ou toi, l'État et l'éventuel foyer d'étudiants où tu dors et tu vis. Ouais.
Ok, écoute, merci d'en parler parce que je pense que voilà, c'est pas encore assez connu.
Non,
et surtout, est-ce que tu n'as pas eu peur de cette étape dans ta vie où tu savais que voilà, tu avais une espèce de date de fin, de soutien, quoi? Bon, d'un côté, j'imagine que c'est ça qui a fait ta force et ta maturité, mais comment t'appréhendais, tu vois, à 19-20 ans, la suite?
C'est vrai que c'est une bonne question. Si tu veux, je me suis jamais... Alors, je me suis jamais mis de barrière. Donc, à 19 ans, à 19-20 ans, mon premier appart, c'était un appartement de 70 mètres carrés à Boulogne, tu vois, que je partageais en colocation. Pour moi, ça me paraissait extrêmement simple et facile, tu vois, alors que d'autres personnes galèrent. Donc, j'ai jamais mis de barrière et je pense que si tu te mets pas de barrière psychologique, tu peux faire ce que tu veux, quasiment, quand tu veux et comme tu veux. Je pense que je réfléchis peut-être à l'envers, mais c'est toujours comme ça que j'ai réfléchi, et ce, depuis le plus jeune âge. Cette date des 21 ans fait souvent peur aux enfants qui sont placés, parce qu'après, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. À 21 ans et un jour, t'es dehors. C'est comme ça. Donc, les éducateurs vont essayer de te préparer à ça, faire en sorte que tu attrapes un job étudiant, que t'aies bien rempli ton dossier de bourse, etc., etc. Mais 21 ans et un jour, t'es dehors. T'as une date de péremption.
C'est fou, hein. C'est dit comme ça, ça fait réfléchir. Bon, en tout cas, toi, tu arrives du coup à Boulogne. Et bah, dans quel secteur tu t'orientes maintenant que du coup tu te dis bah les études non, ça serait trop chronophage et je vais commencer à bosser.
J'ai été spécialisée en télécommunication, donc sur tout ce qui était à l'époque nouvelles technologies. Donc j'ai travaillé chez les grands opérateurs Orange, SFR. J'ai refusé Bouygues et donc j'étais spécialisée en nouvelles technologies. Donc j'ai connu l'avènement en fait de la 3G, les premières visios, ce genre de choses, et j'étais au service technique de chez Orange et je testais en fait ce genre de choses-là. Quand il y avait des remontées, en fait, on testait avec les clients et puis on améliorait les process. Mmh. Parce que c'était totalement inconnu à l'époque.
Ouais, totalement, c'est fou. Ouais. Et c'est pendant que tu faisais ça, que tu as commencé à te dire en parallèle...
Sur Internet. C'est là où j'ai pris le goût à Internet, c'est là où j'ai pris le goût au forum, à la discussion en ligne, etc., etc. J'étais un peu hyper connectée, entre guillemets. Et c'est là où je me suis intéressée donc, au monde du naturel, à discuter avec des femmes. Il y avait une certaine sororité hein, sur le forum Boucle et Coton. C'était 15 000 femmes à la fin qui étaient réunies. Et pour l'époque, alors que les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était énorme.
Ouais.
Donc, le forum a été créé. Ensuite, on a ouvert une association parce qu'on s'est rendu compte que c'est bien de discuter en ligne, mais il faut passer un petit peu à l'action. À l'époque, il n'y avait pas, juste pour te dire, de banque de données d'images où il y avait des femmes à cheveux naturels, des femmes afro-métissées à cheveux naturels. Donc, nous, à l'époque, on faisait nos propres shootings photos pour pouvoir illustrer les articles, les newsletters ou ce genre de choses. Et on les mettait sur Internet pour que les gens puissent les réutiliser pour pouvoir voir d'autres personnes avec d'autres visages et d'autres textures déjà à l'époque.
Est-ce que, là aussi, ça va être très naïf de ma part, mais voilà, c'est vraiment une question que je me pose, pourquoi est-ce que tu penses que jusqu'en 2010, 2011, 2013, il y a eu cette invisibilité des femmes aux cheveux texturés?
On vit dans un monde avec, avec beaucoup de carcans, beaucoup de cases. Je pense aussi qu'il y avait une super dépendance avec un certain monde de la beauté aussi. C'est ça. C'est que finalement, il y a une génération entre guillemets de personnes qui a cherché à rentrer dans un moule.
Mmh.
Et la génération d'après, dont je pense faire partie, et dont tu fais partie, tu ne veux pas rentrer dans ce moule parce que le moule, il est trop petit ou t'es trop grande pour le moule, tu vois. Et tu ne t'en excuses pas. Alors que d'autres personnes, pour s'intégrer dans la vie de tous les jours, éviter les remarques, t'as les cheveux... Tu sais, pour éviter cette remarque, tu t'es coiffé avec un pétard, tu vois ce que je veux dire, ou autre, s'attacher les cheveux, se lisser les cheveux pour rentrer dans la case, pour se fondre dans la masse. Et nous, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne veut plus se fondre dans la masse, on veut être unique, et c'est ça qu'on met en avant aujourd'hui. Et c'est la différence entre ces 10 ans, c'est les réseaux sociaux.
C'est vrai, ça a vraiment permis en fait à chacun et chacune de s'exprimer. Et c'est plus les médias qui donnaient à voir ce qu'ils voulaient bien montrer. C'est nous qui avons commencé à nous montrer et à montrer la diversité.
C'est ça. En fait, la diversité vient des réseaux, la diversité de beauté, de couleur de peau, de texture de cheveux, même juste de mode de vie. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. La famille monoparentale, il y a plein de choses. La famille recomposée, il y a plein de choses en fait. Qui sont passés à la vue de tous, mais qui n'étaient pas mis en avant entre guillemets par les principaux relais et
traditionnels,
médias en fait, traditionnels.
Ouais.
Quand est-ce que j'ai pu voir dans mon enfance des femmes à cheveux bouclés, rondes ou peau mate en couverture? Ça se compte sur les doigts d'une main.
C'est ce que Lizzo disait dans son discours très récemment là.
J'ai pas vu, mais
t'as pas vu, elle disait all I want, tout ce que je voulais voir quand j'étais enfant, c'était une femme ronde comme moi, noire comme moi et belle comme moi, et les larmes aux yeux quoi. Et c'était trop touchant.
J'ai pas vu, mais c'est exactement ça en fait. La représentativité est extrêmement importante parce qu'en fait, si tu te sens pas représentée, t'as deux voies. Soit tu cherches à te casser pour rentrer dans un moule. Soit tu sors de la société et tu vis plus avec les autres. Mais pour te protéger et par rébellion aussi. Donc, et c'est dommage en fait. C'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont été incompris ou qui ne se sont pas vus et qui se sont sentis marginalisés par la société. Parce que ta beauté n'est pas commune. Parce que tu peux avoir à l'époque, tous les traits d'une femme noire ou métissée étaient pas forcément aujourd'hui, avec l'avènement des Kardashians, grosses fesses, grosses bouches, gros seins. Mais à l'époque, si tu avais des fesses qui dépassaient la taille 40, on te disait que t'étais forte, tu vois, que t'étais grosse. Aujourd'hui, la
c'est
rondeur,
désirable.
C'était désirable,
ça prouve bien que les standards de beauté sont totalement arbitraires.
Et en 10 ans, ils changent extrêmement vite, et ils changent extrêmement vite avec les réseaux. La seule chose qui me fait peur aujourd'hui sur les réseaux, c'est les filtres.
Ouais, c'est sûr. Et écoute, ça rejoint un sujet dont j'aimerais bien te parler. Qui, en fait, c'est difficile hein, pour même, pour ma part, avoir une marque aussi, pour le coup, de sous-vêtements. Mais comment tu approches le fait d'un côté de souhaiter être désirable, de rendre ta marque, tes produits désirables, sans forcément vendre un idéal de beauté et potentiellement faire complexer des personnes, tu vois, qui découvriraient les produits ou la marque?
Ce sont des grandes discussions, mais j'ai une sorte de doctrine, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Donc je ne veux pas que les gens se sentent rejetés, je ne veux pas que les gens... C'est ça. Donc en fait, quand je réfléchis à quelque chose, je fais en sorte de ne pas exclure une partie de la communauté, une partie de type de couleur ou autre. J'essaye de faire au mieux. Hein. Après, c'est l'intention qui compte aussi beaucoup. Parce que oui, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, c'est sûr, mais j'essaye en tout cas de le faire dans la bienveillance et le message, un super mood. Les gens sont souvent étonnés, ils voient mon équipe, ils me disent « mais c'est une équipe de bisounours ». Tu bosses, t'as monté une boîte, on dirait des bisounours. Vous vous aimez, vous faites des câlins, vous apportez des gâteaux, etc. Ils comprennent pas, parce que c'est pas, tu sais, l'esprit un peu surjoué qu'on peut trouver dans certaines startups où « allez, viens, on va se faire un baby-foot ». Non, c'est vraiment
avant
profond,
tout,
c'est de l'humain avant tout, on s'inquiète des uns des autres. Et en fait, à travers ma communication, j'essaye en tout cas de faire en sorte de que tout le monde, en tout cas, même si tu t'es pas représenté, tu sentes le mouvement, tu sentes la chaleur. Et le slogan de la marque, c'est « Always with love ». Et en fait, l'amour, c'est universel quand même, tu
ouais,
vois.
Ouais.
Ce sentiment d'appartenir à un mouvement qui t'apprécie, c'est universel.
C'est très beau. C'est très beau. Écoute, revenons donc sur les prémices des secrets de Loli. Tu es dans ta cuisine. Bon, déjà, comment tu fais pour... Tu fais des tests de recettes pour revoir. Tu fais tes propres cobayes. Qu'est-ce qui marche le mieux? Tu le notes et puis tu te dis, bon, allez, on va en faire des vrais produits.
Alors, l'avantage de Boucle et Coton, c'est que pendant 3 ans, j'ai parlé jour et nuit de cheveux. J'ai parlé jour et nuit d'ingrédients qui conviennent plus ou moins mieux à tel type ou tel type de texture. Très clairement, le naturel, c'est ce qui convenait le mieux aux cheveux texturés. Certains ingrédients ressortaient plus que d'autres. L'avènement aussi de Aromazone a permis la facilité aussi, mais à l'époque, en 2009, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc beaucoup d'imports US ou UK. Et oui, effectivement, un petit peu de tambouille, j'ai servi de cobaye, mais les copines des copines, etc., etc. Et en fait, très vite, malgré moi, la marque, elle est née, en fait, c'était spontané. Je mets dans un pot, tu peux tester, mais c'est génial, mais attends, j'en reveux. Et en fait, ça s'est fait à une vitesse qui m'a un peu dépassée. À l'époque, je travaillais à la Sécurité sociale, je faisais ça je voulais même pas monétiser ça au début. Et puis, au bout d'un moment, l'idée se fait que, je le fais bien, il y a des très bons retours. Et pourquoi L'Oréal, ou X, ou Y, ou Garnier, ou qui tu veux, le fait pas? Mais pourtant, ça me paraît pas si difficile, tu vois. Pourquoi eux, ils le font pas? Ils ont l'argent, ils ont les budgets, ils ont des centaines de cerveaux. Bon, écoute, on va le faire. Hein. Si eux, ils le font pas, moi, je vais le faire.
Je vais leur montrer comment le faire.
Voilà.
Du coup... C'est combien de temps après? C'est dans la même année que tu décides de te mettre... est-ce que tu continues quand même à bosser à côté? Ou est-ce que tu te dis, allez, on va créer un petit site internet? Il y avait déjà un peu de e-commerce.
C'est ça. Dès le début, j'ai commencé sur internet. Donc, il y avait une partie du stock de matières premières qui était vendue en matière brute. Et donc là, c'était toutes les femmes qui faisaient de la tambouille maison. Et de l'autre côté, les, entre guillemets, un peu plus flemmardes, qui voulaient un produit fini. Elles pouvaient acheter les produits finis. Donc, il y avait un équilibre dans les ventes. Ce qui me permettait, en fait, le stock de brut me permettait de financer finalement mes productions de produits finis. Et puis ça marchait, puis j'en refaisais, je faisais que ça en fait à la fin. Donc j'ai fini par quitter mon emploi, mais pas tout de suite. Hein. J'ai mis 2 ans et demi avant de partir parce que j'ai ouvert une boutique en 2010. J'ai travaillé pendant pas mal de temps sur les 2 emplois, et puis au bout d'un moment, tu prends ta première assistante et puis tu te lances, quoi.
Une boutique, c'était une boutique physique ?
C'est une boutique physique dans le 12e qui est toujours 56 rue Coriolis à Paris. C'est le siège de l'entreprise. Là, elle est fermée, mais j'ai gardé le bail parce que c'est symbolique pour moi.
D'accord, je comprends. Et ça ne t'a pas trop fait peur ? Je me dis ça, c'est fou. Limite, le e-commerce, tu prends un peu moins de risques.
Bien sûr.
Tu vois, il y a des possibilités même de produire une fois que tu as été rémunéré, etc. Là, la boutique, c'est un emprunt à la banque, etc. Ça ne te faisait pas peur ?
Alors, j'ai eu une boutique sans pas de porte. Donc ça, j'étais tranquille. C'était une location, donc j'ai... Voilà. Mais tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle, etc., etc. Surtout mon entourage. Je cherchais un garant ou autre. Enfin bref, j'ai un peu galéré, mais je voulais cette boutique. J'ai harcelé l'agent immobilier pendant tout l'été. Et à la fin, je lui ai dit, vas-y, je vous donne 6 mois de loyer, 1 an de loyer d'avance. Et en fait, elle m'a rappelé, elle m'a dit, non, mais c'est bon, ok, c'est vous. Je lui ai dit, je vous donne 1 an. Elle m'a dit, non, c'est 3 mois. Mais j'avais été tellement casse-bonbon qu'ils m'ont donné la boutique aux conditions classiques. Donc.
Ça, c'est comme quoi ça paye. J'ai l'impression que ça paye pas avec moi. Je crois que je les harcèle pas assez.
Ah non, la tenacité, ça paye. Et puis, on oublie souvent, mais il y a des personnes, elles sont à des postes où toute la journée, elles sont pas considérées. Quand tu considères quelqu'un, déjà quand tu l'appelles, tu lui demandes comment allez-vous, est-ce que ça va bien, bon, je vous embête encore, je suis désolée. Mais tu vois, tu lui demandes réellement comment elle se sent, comment elle va depuis la dernière fois, mais les gens, ils se souviennent de toi au bout d'un moment.
C'est vrai.
La politesse et la gentillesse, en vrai, c'est une vraie carte de visite.
C'est sous-côté.
C'est sous-côté, vraiment. C'est exactement ça.
Et donc, tu crées ta propre boutique, tu commences à t'y consacrer à plein temps. Tu te souviens donc de ta première embauche, c'était une assistante.
Ouais. Une assistante. Ensuite, donc elle faisait les ventes et elle s'occupait un petit peu du site internet. Et puis ensuite, j'ai eu une assistante au labo pour m'aider à fabriquer, pour pouvoir augmenter les ventes. Ça s'est bien passé jusqu'à 2012, 2013. Je commençais à vendre aussi dans d'autres magasins que le mien. Et puis en 2014, début 2015, j'ai décidé d'industrialiser le process parce que je tombais enceinte de mon premier fils et que porter des seaux, etc., c'était compliqué. Et puis j'avais signé un premier gros distributeur qui avait, lui, une dizaine de magasins.
D'accord.
Donc il fallait scaler, en fait. Et c'est là où j'ai trouvé mon usine, j'ai donné mes process de fab et j'ai commencé progressivement à leur donner les produits à faire au fur et à mesure, un après l'autre. Je voyais comment ils géraient et je lâchais le bébé, entre guillemets, entre leurs mains.
Donc avant ça, tu avais ton propre labo fait maison, quoi.
Ah, exactement.
C'est fou, je connais personne qui a fonctionné comme ça.
J'ai fabriqué à la main dans la boutique. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai acheté une maison. Mais en fait, j'ai acheté la maison juste pour le sous-sol pour faire mon labo. J'ai fait mon labo là. Donc, j'avais une assistante de prod et une assistante. Et puis ensuite, en 2014, j'ai trouvé un autre lieu. En 2015, un autre lieu en dehors de la maison. Parce qu'il fallait que je sépare un petit peu. J'allais être maman. Donc voilà. Donc, le labo est toujours à Saint-Maur. Hein, c'est mon labo de RD aujourd'hui. Parce que je ne fabrique plus les produits à vendre. Mais je fais toujours la formulation.
Ok. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre pour toi? Parce que tu fais vraiment partie du cas de la personne qui a tout appris, quoi. Je veux dire, y a rien, entre guillemets, que tu savais faire, à part ton bon sens. Mais sinon, tu n'avais pas de formation, voilà, que ce soit en management, en tech, en vente.
Le plus difficile, c'est le management. C'est le management. Même si tu peux être bienveillant, c'est ta boîte, c'est ton bébé. Tout le monde n'a pas forcément la même vision que toi, la même implication. Mais au-delà de ça... c'est les relations humaines, en fait, parce que moi, je me suis auto-gérée. Ensuite, tu gères une petite équipe. Aujourd'hui, on est 20. Donc en fait, au début, tu es entrepreneur et après, tu es chef d'entreprise. Et ça, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence.
Et quelle qualité tu as dû gagner en devenant chef d'entreprise?
La patience. J'ai pas trop appris à mettre de l'eau dans mon vin, mais
tu essayes de temps en temps.
J'essaye. Non, la patience, la persévérance, je l'avais déjà, mais beaucoup de patience, et puis aussi le fait de devoir prévoir les choses. Et en fait, faut avoir un plan. Et quand t'as un plan et que tu le suis, ça, tout va bien en fait.
C'est vrai que pour être plutôt moi dans les premières années, quoi, ça va faire 2 ans en novembre pour je ne sais quoi. En fait, moi je suis quelqu'un de très organisé, qui adore faire des, tu vois, des plans, des stratégies, etc. Mais en fait, t'as pas le temps d'en faire dans les premières années, quoi.
Non, au début, t'es dans la réaction.
T'es dans la réaction totale. Et voilà. C'est assez frustrant. Hein. Bon, là, on commence à. C'est un peu mieux parce que l'équipe grandit, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé savoir avant, tu vois, qu'en fait, c'est l'entrepreneuriat, c'est quand même 90% d'opérationnel.
Oui. Tu vois, et surtout, en fait, au bout d'un moment, tu passes plus ta vie à créer, entre guillemets. Tu crées ton produit au début, tout va bien, t'es tout seul, tu te gères, t'es oh, c'est content, ouais. C'est beau, c'est joli.
Ouais.
Et ensuite, tu passes ta vie à résoudre des problèmes et trouver des solutions.
Ouais. Oui, je préfère dire trouver des solutions, c'est parce que c'est ça qui compte.
C'est ça qui compte, mais en vrai, trouver des solutions, et c'est pour tout. C'est pour tout. Ça, sur toute la chaîne, tu dois trouver des solutions. Et surtout, quand tu commences à avoir des équipes ou autres, c'est vers toi qu'on se retourne. C'est toi qui tranches.
Ouais. Et est-ce que tu avais ça naturellement de ne pas te laisser, tu vois, submerger par le stress et... Ouais, ok.
Ouais. Oh.
Toi, tu as toujours été drivée en mode, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve une solution.
Bah, c'est un peu ça, en fait. Mais c'est ma vie personnelle qui me ramène ça. C'est-à-dire que j'aime bien dire que ce ne sont que des shampoings. Je ne fais pas dans le don d'organes, d'accord ? Donc déjà, ça, tu remets les gens... Voilà, hein, on ne fait pas des médicaments. Donc déjà, il faut garder les pieds ancrés. Ensuite, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, si ma vie personnelle et tous les soucis personnels que j'ai eus, que j'ai affrontés durant toute mon enfance ne m'ont pas brisé, c'est certainement pas un business qui va m'avoir.
Ouais.
Que ce soit la concurrence, que ce soit les gros majors, que ce soit... C'est pas eux qui vont m'avoir. C'est pas... Si ma vie ne m'a pas brisé, c'est pas mon business qui va me briser.
C'est une belle mentalité, une belle philosophie de vie, gardez ça en tête. Donc, ok, là je vois bien un peu le déroulé des différentes années, tu deviens donc chef d'entreprise. Est-ce que ça te manque pas, peut-être, cette partie création?
Oui.
Parce que c'est vrai qu'après tu finis par faire ce que tu dois faire, pas forcément ce que tu as envie de faire.
C'est exactement ça, et c'est le moment où tu dois apprendre à déléguer et lâcher prise. Lâcher prise.
Oh, c'est un terme très subtil pour moi.
Lâcher prise, avoir des gens de confiance. Tu recrutes des gens et tu les recrutes parce qu'ils ont des talents, ils ont des skills, tu vois. Et si tu les utilises pas ou tu leur fais pas confiance, bah en fait, ils sont là pour rien. Mmh. Et en plus, c'est extrêmement frustrant. Et c'est là où, en tant que mauvais manager, bah, tu peux perdre des talents ou des éléments qui n'étaient pas bons du tout. Hein. On sait très bien qu'un mauvais recrutement fait perdre beaucoup plus d'argent que... Du coup... C'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un passage où il faut y aller, en fait. Il faut que tu te dises, bah, écoute, la comptabilité, c'est plus moi. La logistique, c'est plus moi. J'ai un logisticien, donc je peux partir en vacances et plus 7 jours sur 7. Tu vois, il y a des gens, au mois d'août, je les connais, ils font leur colis. C'est pas possible. Je leur dis, mais upgrade. Il faut que tu upgrade, en fait. Et puis, on travaille pour quelque chose de plus grand, pour kiffer, déjà. Il y a ça aussi, pour prendre du plaisir. Sinon, on retourne dans le salariat.
Mmh. Ouais, c'est sûr.
T'as tes horaires. En tout cas, un message à faire passer, c'est que tu ne travailleras jamais autant qu'en tant qu'entrepreneur.
Ouais.
Tes semaines, elles ne font pas 35 heures, elles en font 70 minimum. Tu vis, tu respires, tu manges. Il n'y a pas de vacances. Même si physiquement, tu n'es pas à ton travail, il y a une charge mentale qui est latente. Et si tu n'apprends pas à déléguer, c'est mort. Tu peux t'écrouler. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai eu 2 enfants extrêmement rapprochés, merci. Ça, c'est autre chose,
merci
d'accord.
La vie.
Merci la vie. Oups. 5 ans et 6 ans, ils ont que 15 mois d'écart. Et donc, tu vois, les enfants, je les ai ramenés au bureau. J'étais surbookée. J'ai pas de famille, moi, de mon côté.
Ouais.
Donc, j'étais surbookée. Et un jour, je me suis levée, je me suis retrouvée écroulée dans mes toilettes, les pompiers, les fesses à l'air, qui prennent la civière par la fenêtre, enfin la totale, tu vois.
Ah oui, quand même.
Et on te dit, vous avez des carences sur tout. Vous n'avez plus d'hémoglobine, vous n'avez plus rien, tu vois. Vous êtes juste épuisé. Et en fait, c'est là où mon collègue, qui était directeur du développement, il m'a dit, non mais stop, en fait. Et il a dit à toute l'équipe, on ne la sollicite plus. Tout est filtré par moi. On fait une liste de questions. On la mobilise tant de temps seulement. Voilà, je suis revenue très vite dans le bain parce que c'est ma boîte, c'est que.
C'est aussi ton énergie,
c'est
quoi.
Énergie, exactement. Mais ce garde-fou-là, tu te dis, non, en fait, il faut apprendre à déléguer, il faut faire confiance à ton équipe. Il y a des fois, dès que tu fermes un peu les yeux, tu te dis, j'aurais pas fait comme ça. Mais en vrai.
Ouais. Better done than perfect.
Ouais.
Et est-ce que tu aurais des conseils pour trouver les bonnes personnes, tu vois? C'est très dur, hein. C'est vraiment
extrêmement difficile.
Est-ce que c'est faire passer plusieurs rounds? Est-ce que tu fais par bouche à oreille?
Moi, je suis une vieille bique, moi.
C'est vrai que t'as pas dit pendant l'âge, t'as quel âge? Attends, je vais essayer de deviner. Bon, t'as des enfants, même si ça veut rien dire, voilà, je pense que du coup, t'as un peu plus de 30 ans. 2009, t'as dit que t'avais 25 ans, donc en fait, je peux totalement faire un calcul.
Voilà.
C'était il y a 13 ans. Tu as donc, et là tout le monde va se rendre compte que je suis nulle en calcul mental, 38 ans.
Parfait.
Merci, merci à tous.
Je vais avoir 39 le mois prochain, ouais. Ouais, ouais, ouais. sur cette digression, je sais plus où on en était.
Je sais pas non plus. Ah si, je te disais, recrutement.
Oui.
Ouais,
oui.
Quels sont des conseils un peu pour avoir ouais. Hein,
c'est extrêmement...
Pas faire l'erreur, parce qu'une erreur de temps en temps, fine, mais en fait,
erreur peut te coucher. Peut te coûter très très cher.
Ouais.
Moi, j'ai failli perdre ma boîte sur une erreur de recrutement et une frustration créée avec les non-dits.
D'accord.
Waouh. Franchement, j'ai eu un procès.
Tu nous racontes.
J'ai eu un procès d'une apprentie pour propriété intellectuelle parce que je lui avais demandé de réaliser un dessin, etc. sur pour mes packaging. Je l'ai guidée, hein, je lui ai donné les infos et en fait, elle a oublié, mais je lui ai montré une photo d'inspi. Et elle a attendu le dernier jour de son apprentissage. J'ai reçu une lettre, un courrier. Et le courrier disait qu'on m'attaquait en justice pour 80 000 euros, plus 20 000 euros de dommages et intérêts. Ouais.
Ah ouais.
Et à l'époque, c'était en 2019. Donc, c'était pas si loin que ça. En 2019, j'avais pas encore scalé. J'avais jamais fait mon premier million. Et en fait, les 100 000 euros qu'elle demandait, c'était mon fonds de roulement. En gros, ça correspondait à mon fonds de roulement. Je peux te dire que ça a duré 2 ans, parce qu'à cause du Covid qui est arrivé, ça a duré 2 ans, j'ai gagné, elle a été condamnée à me verser mes frais juridiques, mais ça te détruit, parce qu'il y a une sorte de... T'as peur.
Ouais.
Quand tu fais un recrutement derrière, t'as peur. J'ai failli perdre ma boîte comme ça, parce que quelqu'un lui a dit « t'as pas signé un truc, tu devrais aller voir un avocat. » Et puis l'avocat, il a dû se dire « Oh, la vieille méchante patronne qui exploite la vieille apprentie. » Alors que j'ai eu de la chance de garder toujours mes anciens téléphones. Je sais pas pourquoi, enfin je sais maintenant. Et en fait, c'était redaté et franchement, ça ressemblait beaucoup et ça a aidé dans le dossier, etc. etc. Non, c'était incroyable. C'est une histoire qui a failli me briser. Et en fait, il y avait un mauvais mood cet été-là dans ma boîte. Et tout un service en fait s'est écroulé parce que une pomme entre guillemets vérolée contamine tout le reste, tu
vois. Ouais.
Et en fait en juillet 2019 on s'est retrouvé à 3 dans la boîte. Personne ne le savait. Il y avait mon directeur commercial, une assistante et moi.
Donc là c'était un peu repartir à zéro.
Je suis repartie à zéro. Il y avait 15K à l'époque sur Instagram. On a recruté Amélie, qui est notre responsable marketing aujourd'hui. Elle avait que 24 ans. Elle arrive, je lui dis tu vas gérer une équipe de com. Et en fait, elle est arrivée, elle a fait son premier jour et le lendemain, ils sont tous mis en arrêt. Ouais.
Ah ouais.
Tu connais un putsch.
Ah ouais. Ah ouais.
C'était horrible. Et donc tu te remets en question.
Oh bah
il y a
oui,
plein de choses.
Sûr.
Tu te remets en question. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Et en fait, en janvier ou février, j'ai dit, cette année, on va se caler. On y va. L'objectif, c'est 1,2. Tu vois, je suis très transparente. 1,2 million. On te dit « Ouais, génial, etc. » L'année d'avant, on avait fait 750, je crois. « Ouais, génial, t'inquiète, etc. » Je dis « Vous adhérez au plan, vous adhérez au plan. » « Ouais, ouais. » Et puis en fait, tu vois que toute l'année, le truc s'écroule parce que tu commences à demander aux gens des résultats. Et tout d'un coup, ça se dégonfle, en fait, entre guillemets. Et puis c'est là où se créent des frustrations. Toi, t'attends quelque chose de l'autre et puis éventuellement, les autres... Et donc voilà. Et en juillet 2019, apothéose, l'équipe, elle pète en plein vol. Tout le monde pense que voilà, et en vrai, on n'est que 3 et on recrute Amélie. Amélie me dit bouge pas, je vais gérer, c'est pas grave. Et juillet et août, elle est toute seule. Elle recrute elle-même sa propre apprentie en septembre. Et Amélie, elle est rentrée chargée d'influence marketing, 15 000 followers en juillet 2019, je me rappellerai toujours. Et là, aujourd'hui, on a 192 000 followers. Et on fait que de l'organique.
Vous faites zéro paid ?
Zéro paid.
Ah oui, c'est incroyable.
Ouais, c'est un travail.
Là, t'as trouvé une pépite, là. Ouais.
J'ai trouvé une pépite, mais surtout, on crée nos relations avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Alors oui, à Noël, tu fais une opération de paid avec de l'influence, mais le reste de l'année, on communique et on crée de l'engagement et on crée du contenu en interne et on essaie de faciliter la vie aux clients, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a, on a été élu, il y a eu un classement sur LinkedIn. En juillet, on était la troisième marque mondiale avec le meilleur taux d'engagement dans la beauté en capillaire. Avant moi, c'est L'Olavie et Gillo Beauty. Et on est la seule marque française dans le top 10.
Incroyable, c'est une belle récompense.
C'est notre taux d'engagement est assez puissant.
Belle reconnaissance.
Ouais. Et là, on est passé quatrième, parce que bon, le mois d'août, j'avais envie de dire.
Mois d'août, merde.
Mois d'août, quoi.
Ouais.
Mais voilà.
Mais parce que vous faites passer un vrai message, que vous avez une communauté.
C'est ce que tu disais sur le recrutement. Cette claque-là a été tellement violente que c'est pas qu'on s'en fiche de tes diplômes, mais tu peux avoir deux CV, deux diplômes équivalents. Nous, maintenant, c'est uniquement au fit qu'on le fait. Si on sent que la personne va s'imbriquer dans l'équipe et qu'elle a l'état d'esprit, eh ben, c'est elle qu'on va prendre. Maintenant, on recrute. Oui, bien sûr, on te demande des choses minimum. Hein, tu peux pas être directrice de telle... Mais ce sera ton mood et cette façon de travailler en équipe, etc., etc. Je le ferai pas à la meilleure placée. C'est, non, c'est fini, ça.
Mais j'aimerais bien avoir, du coup, ton avis sur la question, parce que toi, qui, du coup, n'as pas fait d'études, en tout cas supérieures, tu es comment face à un CV ? Est-ce que tu as quand même ces exigences parce que ça rassure, parce que...
Il y a deux types de choses. La première, c'est... Attends, c'est quand même sarcasme de la vie quand même que moi j'ai des apprentis en chimie parfois, bac plus 4-5, et c'est moi qui leur apprends comment fabriquer un cosmétique. Donc ça...
Tu t'es rendu compte que ça voulait pas toujours dire quelque chose.
Voilà, donc ça c'est pas un souci. Non, c'est pour ça que ça est devenu au mood, à l'esprit, tu vois, des gens, de où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont épanouis dans leur vie ou pas. Il y a ça aussi, tu vois, qui est hyper important. Au-delà de son CV.
Ouais.
Bien sûr que si je te demande de coder, il faut que tu saches, tu vois. Mais au-delà de ça, ça va vraiment être ton état d'esprit. Là, maintenant, à qualité équivalente, ou même parfois, il y a des nanas, elles n'ont pas le CV, elles sont en reconversion, et on va les prendre, et ça va matcher. Parce qu'elle a l'esprit, qu'elle veut apprendre, qu'elle est passionnée, tu vois. Ça nous est arrivé 2-3 fois, là. On a 2-3 cas dans mon équipe, c'est ça. Elle faisait pas dans la com, elle faisait pas dans le commerce, elle faisait pas dans la beauté. Et pourtant, ça se passe hyper bien et elles sont hyper épanouies.
C'est vrai que je pense qu'on peut pas. En fait, des compétences, ça s'apprend, mais l'état d'esprit, ça s'apprend pas, quoi.
C'est ça. Mais t'as tout dit. Et moi, je sais que ça peut te détruire une équipe. Et le pire, c'est que la pomme pourrie peut aller pendant très longtemps, même sur des gens qui ne se sont pas forcément croisés. Mais il y a des relents d'actions, de choses qui ont été faites qui font que, tu vois, pendant très longtemps, tu ressens encore les effets d'un mauvais recrutement.
Est-ce qu'avec le recul, t'es contente d'être passée par là ?
Ouais. Ouais, parce que ça m'est arrivé juste avant de se caler.
Ouais.
Et ça, je suis passée par toutes les difficultés. Le management, l'autofinancement. J'ai jamais eu un financement bancaire.
Parce que tu n'en as pas demandé ou parce que tu n'en voulais pas ?
Parce que le moment où je me suis mis à le demander, on m'a dit « Ah non, vous ne correspondez pas trop à la case. Non, c'est pas passé. » Enfin, c'est vraiment, vraiment. Donc, moi, tu me fais un refus, tu me fais deux refus, trois refus, c'est bon. Enfin, même pas. C'est pas grave, on va le faire. On va le faire avec l'appel à la pioche. Tu vois. C'est le mood. En tout cas, c'est le mood chez Secret Loli. Si on y arrive, si tu passes pas par la porte, tu passeras par la fenêtre.
Ouais. Bon, la preuve, ça marche.
Ça a extrêmement bien marché. On a fait rentrer un fonds d'investissement en mai 2022. Je détenais 100% de mon capital. La boîte, elle fonctionne bien. Nous, on est rentable. Moi, j'ai été rentable dès le premier jour. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que toutes les boîtes ne sont pas rentables et encore moins dès la première année. Donc, j'ai toujours été bénéficiaire. Et donc, du coup, au lieu d'une levée de fonds, ça s'est transformé en LBO, cash in, cash out. Enfin, je vis un conte de fées.
Est-ce que tu pourrais décrire pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une LBO
Un LBO, c'est Leverage Buyout, c'est-à-dire que tu vends une partie de ton entreprise. Tu cèdes les parts de ton entreprise. Donc, il y a un pourcentage qui ne m'appartient plus. Parce qu'une levée de fonds, on injecte de l'argent dans la boîte uniquement, entre guillemets. Bon, des fois, le cash-in, c'est dans la boîte. Le cash-out, c'est pour le propriétaire de la boîte ou les actionnaires de la boîte directement. Donc, c'était un peu dans ma poche et une partie dans la boîte. Et comme on était une boîte saine, j'ai pas pu faire de levée de fonds parce que la levée, on parie sur ta croissance aussi. Donc en fait, tu as des multiples. Tu vois, par exemple, si tu fais 50 000 euros de bénéfices, on t'applique un multiple de 6, ta valorisation, c'est 6 fois 5, tu vois.
Ouais.
Mais là, en fait, on pariait pas sur une potentielle croissance.
Elle était déjà là.
Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint le club très fermé, entre guillemets, des LBO de start-up. Mais...
Non, mais c'est marrant quand même. Enfin, ton histoire est assez singulière. Et tu disais, tu vois, plutôt que c'est important de montrer différents physiques et différentes femmes, je pense que c'est important aussi de montrer différents parcours entrepreneuriaux, différents rôles modèles, parce que c'est aussi à ça que s'identifie la nouvelle génération, quoi.
Mais totalement. Moi, à qui tu veux que moi, en tout cas à mon époque, j'ai pu m'identifier? Est-ce qu'il y avait une femme ronde? Est-ce qu'il y avait une femme avec des cheveux naturels? Est-ce qu'il y avait une femme entrepreneur? Enfin, mis à part Oprah.
Ouais.
Et donc, on est déjà, tu vois, aux US. Et bien sûr, il y a des femmes inspirantes, des quelques politiciennes qui ont été inspirantes, mais rien dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je communique un peu plus ou je m'ouvre un peu plus parce que je me dis que j'ai un rôle à jouer pour montrer aux gens que c'est possible. Tout comme ma marque maintenant. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure je disais le militantisme, ça peut paraître être du bruit, mais là je travaille sur un projet qui est peut-être le plus gros de toute ma carrière, tu vois. Le but, c'est de lancer un mouvement. Le but c'est de révolutionner ce marché et de mettre en avant tous ces visages, toutes ces textures qui n'ont pas été mises en avant, tu vois. Tu me dirais, je pourrais rester au chaud, ne prendre aucun risque et dites acheter mes shampoings, mais en fait non. Là je me dis, maintenant t'attends, t'es fait rentrer un fond, tout, il faut repartir se mouiller encore, tu vois. Sinon pourquoi tu fais ça? Il y a plus aucun intérêt sinon.
Et tu arrives à avoir la même flamme que tu avais quand t'as commencé?
Il y a eu des moments où tu dis, mais en vrai non, je suis quelqu'un qui, en fait, ce qui m'excite dans ce projet, c'est que j'étais pas destinée à ça. J'étais la nana avec les cheveux les moins démêlés de l'histoire, les moins entretenus. Cordonnier mal chaussé, c'est pour moi. Tu vois, cette expression, elle était faite pour moi. Et donc aujourd'hui, j'aide des milliers de femmes à passer au naturel, mais c'est incroyable. C'est un pied de nez, en fait. Tu nais dans une famille pauvre, violente, et tu finis finalement par vivre. Je vis dans un château aujourd'hui. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Mes enfants, eux, ils savent pas ce que c'est que la pauvreté. J'ai vécu dans 15 mètres carrés, sans eau chaude, sous les toits à Paris dans le 9e. Et aujourd'hui, je vis une aventure entrepreneuriale exceptionnelle, je vis correctement, je développe une boîte merveilleuse. Et en fait, ce message-là, il est hyper important de l'apporter aux gens, que non seulement c'est possible, que la méritocratie, ça peut arriver. Ça peut arriver, je pense que... Voilà. Mais surtout, ce qui m'excite dans le projet, c'est que j'aime pousser et voir jusqu'où je peux mener ça. Parce qu'au début, c'était, est-ce que je vais arriver à avoir une marque? Créer une marque dans sa cuisine. Ensuite, c'est une boîte rentable. Ensuite, c'est une boîte avec des employés. Ensuite, et en fait, plus j'avance, plus j'ouvre une porte, qui ouvre une porte, qui ouvre une porte. Et en fait, je ne peux pas m'ennuyer. La flamme, elle ne peut pas s'éteindre. Et le pire du pire du pire, c'est que je suis surexcitée pour pousser le truc, tu vois. Je suis toujours la fille qui fait tout trop, tu vois. Donc, je vais pousser jusqu'où et je vais voir jusqu'où ça va.
Est-ce qu'il y a un moment où tu te dirais « Ok, là, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. » Quand Oprah utilisera tes produits.
Non, mais quand je serai sur le plateau d'Oprah, là, je dirais
Ouais, là, c'est vrai. T'as bien raison.
Là,
ouais.
Oui, là, c'est un goal life.
On peut viser petit quand on peut viser gros.
Voilà. Mais tu sais, j'ai une sorte de liste de goal life et j'en ai déjà parlé. Et en fait, je mets toute la liste de tous mes rêves, de tous les trucs que j'aimerais réaliser. Et en fait, c'est un tel kiff de rayer un truc quand tu l'as fait. Voilà, c'est pas que je suis hyper ambitieuse, c'est juste que là, c'est un challenge avec moi-même en plus.
Ouais, tout à fait. L'idée, c'est pas de se comparer aux
personne,
autres.
J'emmerde personne, je suis dans mon coin. Les gens me disent, mais tu communiques pas beaucoup, mais je comprends pas, on ne voit pas partout. Mais en fait, je suis dans mon coin, je suis concentrée, en fait, je me bats contre moi-même. Donc ça, c'est pour la partie un peu ethnocentrée et égoïste. Et de l'autre côté, franchement, quand tu reçois les messages d'amour, parce qu'il y a des fois, c'est des vrais messages d'amour, de remerciements, de gens, tu te rends compte qu'il y a des gens qui utilisent mes produits. J'arrive toujours... Regarde, quand je t'en parle, j'ai...
La chair de poule. Chair...
J'arrive toujours pas à capter qu'il y a des gens qui utilisent un produit qui, à l'époque, était fait pas... qui a été développé, formulé par moi, tous les jours dans leur salle de bain. C'est incroyable.
C'est un impact énorme. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ces moments difficiles, tu nous en as parlé d'un, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, pour, tu vois, remonter la pente, pour te motiver.
Plus dur de tout, le moment le plus dur de toute ma vie, ça a été quand ma vie personnelle s'est fracassée en même temps que ma vie professionnelle. La boîte, elle s'appelle Les Secrets de Loli parce que mon oncle m'appelait Loli depuis l'âge de 5 ans. Mon oncle, c'était vraiment l'homme de ma vie, ma figure paternelle, enfin bref. Et on était hyper liés. Et en fait, je suis tombée enceinte en janvier 2015. Et au mois d'avril, il ne répondait pas au téléphone. Et il m'avait donné un conseil pour aller voir un client. Et ce client, d'ailleurs, c'est maintenant mon directeur général. Et en fait, il ne répondait pas au téléphone, il ne répondait pas. Et en fait, j'y suis allée, j'étais enceinte de 5 mois. J'ai ouvert la porte et il était mort. Mmh. Et là, en fait, tu te prends une claque de la vie. Tu portes la vie, tu es enceinte de 5 mois et il est là, quoi. Il est là, il est inanimé et je ne comprends pas quand les pompiers te disent « on ne peut rien faire ». Mais si, faites quelque chose. Et en fait, il est
défibrillateur.
Oui, mais alors comme dans un film, ouais, hein, tu crois ouais. dans Urgence. Et en fait, il était déjà mort peut-être depuis 24 heures, tu vois.
Ouais.
Et ça, là, tu te dis, tu dois tenir ta boîte, tu dois tenir cette grossesse alors que tu veux juste mourir, tu vois. Tu veux juste pleurer, tu veux juste hurler, mais tu ne peux pas. Et à la fois, c'est ce qui m'a sauvé la vie, en fait, d'être enceinte et d'avoir cette boîte. Parce que j'avais un projet, des employés qui comptaient sur moi. Ouais. Et j'avais cette vie que je portais. Tu peux pas faiblir, en fait. Et ça a été le moment le plus difficile de toute ma vie. Mais je suis sûre que si j'avais pas été enceinte et que j'avais pas eu ma boîte, j'aurais sombré. J'aurais sombré.
Il faut trouver des passions qui sont... comment dire, extérieur à nous, comme ça, ton bonheur ne dépend pas d'une personne.
C'est ça.
Et c'est un truc que j'ai réalisé tôt parce que je me dis, mais placer son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est vraiment prendre le risque d'être détruite par cette même personne.
Exactement,
quoi.
Et puis de tout perdre, en fait. Ce que j'aime vraiment dans mon histoire, c'est que je suis maître de mon histoire et je décide si c'est oui ou si c'est non. Il n'y a personne. Et encore là, j'ai fait rentrer un investisseur, il est minoritaire. Donc, je suis maître de mon bateau. Tu vois, pendant 13 ans, je l'ai été et je le suis encore. Et ça, c'est une des plus belles victoires entrepreneuriales que je peux avoir. Tu vois. Si demain, je décide de lancer un nouveau produit ou autre, j'ai quasiment pas de compte à rendre. Tu vois. Et ça, c'est magique.
Ouais. Parce que c'est souvent le problème quand on lève des fonds. C'est qu'après, ça doit être approuvé par tous les membres du board.
T'as tout compris. Constituer mon board, là, c'était génial. Là, c'était différent. J'ai décidé de créer un board d'Avengers. J'ai dit ça. Ouais, je veux un board d'Avengers. On dit, hein. Je suis allée chercher des gens. Je leur ai parlé, j'ai échangé et j'étais animée par le projet. Et c'est des gens qui sont incroyables, qui ont bossé dans des gros groupes et qui m'ont dit, ouais, à fond. Tu vois, et ça, c'est magique. Est-ce qu'avant ce LBO, ça me serait arrivé? Je suis pas sûre. Mais... C'est une aventure incroyable.
Il y a une question que je me pose depuis le début. J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on doit passer par des difficultés pour réussir?
Oui. Oui, totalement. Déjà, comment tu veux apprécier?
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Comment tu veux savourer quelque chose si tout a été facile? Et d'ailleurs, quand c'est trop facile, j'attends toujours la couille. Mais totalement. En fait, si tu veux, dans mon équipe en 2019, quand ça s'est cassé la vie, mais comment moi et mon DG, on est devenus, mais tu vois, là, je vais au mariage de sa fille samedi, tu vois. Ça nous a vraiment rapprochés. Amélie, elle est arrivée et ça a créé des liens aussi extrêmement forts. Si j'avais pas connu ça, je pense que je serais pas aussi vaillante.
Il faut garder ça en tête quand on passe des moments difficiles, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle.
Tu le dois, hein, parce que... Et mieux vaut qu'il t'arrive tôt.
Ouais.
Parce que quand il est... Si ça m'était arrivé... Là, ça m'était vraiment arrivé au mauvais moment, tu vois. Fond de roulement, 100 000 euros, c'est pile le moment où t'es fragile. Aujourd'hui, ça m'arrive, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais tu dois manger ton pain noir. Parce que comment tu veux gérer une boîte si tu n'as jamais eu de soucis et que c'est quand t'es gros, là, et que les budgets sont plus importants et que les décisions sont plus importantes. Par exemple, un budget télé, c'est 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Si tu ne sais pas gérer une campagne à 50 000, comment tu veux gérer une campagne à 500 000 ou à 5 millions? Tu dois manger ton pain noir sur ce genre de choses. Et tu dois aussi apprendre en commençant step by step, en fait. Sinon, comment tu peux gérer des budgets? Moi, je me rappellerai toujours quand mon DG il m'a dit, aujourd'hui, on parle de 500 euros, 5 000 euros. Mais tu verras, un jour, on parlera de budget de 50 000 ou de 500 000. Mais il a raison, j'ai validé un budget à plus de 1 million il n'y a pas longtemps. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors qu'avant, une fois, je me rappelle, j'ai pris un cachet, j'avais une migraine. J'ai dit, on en parle demain, là. Et j'avais mal au crâne. Là, aujourd'hui, t'es fluide, tu vois. Parce que j'ai fait mes... J'ai fait, tu vois.
T'as fait tes armes, comme on
j'ai
dit.
J'ai fait mes armes sur d'autres dossiers. Donc, chaque, en fait, finalement, chaque instant, chaque moment désagréable ou agréable, aujourd'hui, je ne reviendrai pour rien au monde dessus.
Et est-ce que tu arrives à faire preuve quand même de bienveillance envers toi-même? Parce que, pour le coup, je suis aussi solo founder, même si j'ai une super bras droit, Oriane, si tu nous écoutes. Et c'est vrai que parfois, ça peut être dur à porter, tu vois, tout ce qui repose sur tes épaules. Comment est-ce que toi, t'as vécu ça? T'as jamais cherché un associé? Tu t'es jamais dit c'est trop?
J'ai un bon DG et il m'a dit « Je suis un mauvais numéro 1, mais je suis un excellent numéro 2. » Et il a raison, merci Franck. Et puis là, en fait, c'est là où tu vois si t'as le talent de recruter autour de toi des gens qui te déchargent, qui te comprennent et qui se sentent aussi impliqués, entre guillemets, que toi quasiment. Ouais. On leur demande pas, mais ils le font.
Ça, c'est vrai qu'Agraine, on recrute toujours par rapport à ça.
C'est ça le truc, en fait. On a vécu des choses compliquées, mais on va vivre encore plein de belles choses. J'attends encore et j'attends toujours. Tu sais. Et quand tu dis, est-ce que je suis avec moi-même un peu... Disons que, avec le temps, tu deviens
Unapologétique, attends.
C'est ça,
Clément.
C'est ça.
Clément, montre-le, s'il te plaît. Prends le cadre, je vais le montrer à l'écran. C'est le troisième, avec la reine de cœur. C'est une affiche que je sors.
C'est pas vrai.
Je te l'offrirai.
Incroyable.
Unapologetic, c'est un de mes mots préférés.
Et ben voilà.
Ça veut dire qu'il ne s'excuse pas d'être
soi-même. En fait, je ne m'excuse plus d'être moi-même.
Merci, Clément.
Je ne m'excuse plus d'être moi-même. En fait, pendant très longtemps... J'ai contenu beaucoup de choses, tu vois. On a tendance à te dire t'as un caractère fort, tu es trop tranchante. Et en fait, c'est là où je suis meilleure. C'est dans ces moments-là où je suis la meilleure sur trancher un truc. Je te jure, hein, tu me mets deux photos, deux vidéos de campagne, les gens ils sont surpris. Je dis ça. Alors qu'avant j'aurais tergiversé. Ouais, mais ils ont travaillé sur les deux, machin. Je peux pas dire ça aussi vite. Non, tu vois. Non, maintenant. Je suis moi-même, j'accueille ça et j'essaie de faire que ce soit encore fait dans la bienveillance.
Ouais, les deux sont pas antinomiques.
Voilà, mais maintenant je m'excuse plus d'être moi-même, mais plus du tout. Et le pire, c'est
l'expérience. Ouais. Ce qui t'a aidé à ne plus t'excuser d'être toi-même, c'est la confiance que t'as gagnée par le développement des secrets de Loli.
En fait, si tu veux, il y a un moment où tu passes du syndrome de l'imposteur, que j'avais légitimement parce que j'étais autodidacte, vers le « ok, je maîtrise mon sujet, je suis experte dans un sujet », vers d'autres sujets. Et finalement, l'expérience et le pain noir que j'ai mangé font que, en fait, je suis légitime. Donc, t'es légitime, t'es un peu plus sûre de toi. Donc, en fait, c'est fluide, en fait.
Et ça, c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas l'inventer, il faut le vivre, quoi.
Voilà.
Et c'est aussi quelque chose, s'il y a des personnes de mon âge ou même plus jeunes qui nous écoutent, parfois, moi, je m'en veux de ne pas encore être comme ci ou comme ça. Et c'est Joël, big up aussi, Joël, si tu nous écoutes, que j'adore, qui me dit, mais en fait, Louis, t'as que 25 ans.
Totalement.
Mais je ne sais pas, je trouve que c'est difficile à réaliser quand t'es à cette place-là, t'as l'impression que...
Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. J'ai créé ma boîte à 25 ans. J'étais déjà un ovni, entre guillemets, à l'époque, parce qu'on me disait, c'est hyper jeune pour créer une boîte. Tu te rends compte? Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que tout le monde excelle dans tout, que les boîtes sont... Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est bien de créer une boîte, mais il faut qu'elle soit rentable. C'est bien de créer une boîte, mais il faut qu'elle soit saine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens, ils sont là, ils parlent, on les entend beaucoup. Et du coup, tu te compares à eux, mais en fait, non, on a chacun notre chemin, et surtout chacun notre timing. Il faut que les planètes, elles s'alignent. Quand j'ai fait le process de LBO, les planètes, elles se sont, entre guillemets, alignées. 2 ans avant, je disais jamais, je le verrai de fond de ma vie. Et ensuite, un matin, tu rencontres quelqu'un, c'était Samuel de My Jolly Candle, qui me dit, moi, attends, tu rigoles ou quoi? À ta place, Ah si, j'aurais pris le golden ticket et je me serais barrée. Je dis, mais je vais jamais vendre ma boîte, il est malade celui-là. Et puis ensuite, tu croises une autre copine qui dit, oh, j'ai croisé une fille, elle est avocate, elle est spécialisée en levée de fonds. Bon. Et puis tu recroises cette fois-ci une journaliste, une rédacte en chef qui te dit, non mais attendez, les chiffres que vous avez, moi je les vois, les indices, ce que vous faites, c'est incroyable. Je dis, mais de quoi ils me parlent ces gens-là? Et en fait, si tu veux, de juin 2021... Tu vois, il s'est passé qu'un an.
Un an.
Ah, t'as vu
ou
pas?
Ouais.
Juin 2021, il y a quelqu'un qui me dit ça. Une deuxième que je rencontre. Et l'autre qui me dit ça en septembre. Je dis bon. Et là, je me lance dans le process. Et là, tu te rends compte que les gens, ils sont excités par ton projet et que ce que t'as réalisé, en fait, ce que t'as réalisé déjà est beau, tu vois. Et là, après, tu t'y vas, en fait. Tu te dis, bah écoute, en fait, j'ai fait quelque chose. Et c'est beau et c'est sympa. Et en plus, je m'éclate encore. Donc, continuons.
Ouais, très belle philosophie. Comment est-ce que tu progresses?
Franchement, je progresse en me diversifiant, entre guillemets, sur plein de sujets, en ayant toujours constamment des nouveaux projets. Mais c'est très difficile pour moi de rien avoir sous le coude. Je pense que c'est un défaut et une qualité, mais je pense que voilà, tu progresses en travaillant sur des nouveaux projets. Tu apprends... Des nouvelles choses, tu prends des nouveaux contacts, tu absorbes des nouvelles énergies qui font que tu te dépasses constamment et surtout que tu apprends d'autres choses. Je pense qu'il faut constamment être curieux et constamment sortir de sa zone de confort.
C'est comme ça qu'on atteint les zones magiques.
Bah, c'est ça en fait, les zones tu ouvres une porte, qui ouvre une porte.
Trop cool. Est-ce que tu aurais une ressource à nous recommander, que ce soit un livre, un film, une série, voilà, qui t'a marqué?
J'ai beaucoup aimé Karma Sutra, qui est un livre sur le développement personnel, notamment avec des règles fondamentales, qui te permet un petit peu d'être toi-même et d'atteindre en fait quelque chose en toi que tu t'étouffes constamment, tu vois, que tu te retiens. Je suis trop ci, je suis pas assez ça. Ben, ça te permet d'aller dérouler en fait, parce que tu te rends compte que en fait, tu es ton pire ennemi et ton meilleur ami, hein, mais tu es vraiment la personne qui t'empêche de dépasser les choses, tu vois. Il faut que ton état d'esprit soit ouvert et que tu ne... En fait, moi, j'ai toujours rêvé grand. Alors qu'il y a des gens, leur rêve, c'est ils sont une dimension autre qui est la leur, hein, tu vois. Mais moi, rien ne me fait peur dans le cadre de ça, en fait. Mmh. Tu vois, quand je t'ai mis Oprah là sur ma liste, elle est sur la liste. C'est un goal.
Et est-ce que tu mets en place certaines méthodes pour essayer d'atteindre ces rêves qui sont dans la liste, ou tu laisses faire, tu vois, le temps?
Alors, je laisse faire le temps, mais tu surveilles quand même. Par exemple, moi, dans mon goal life, il y avait déjà vivre dans un château.
Je l'ai aussi. J'espère pouvoir dire aussi dans 10 ans.
Mais tu peux totalement. Enfin, je veux dire, tu peux totalement. Moi, j'avais une copine qui vivait dans ce château, elle est partie, j'ai récupéré son bail. Enfin, je veux dire, le truc hallucinant, tu vois. J'avais rentré, que ma marque rentre chez Monoprix. Elle est rentrée en mars 2020, mois du Covid. Et ça se passe super bien et on est la meilleure vente, tout capillaire confondu.
Oh là là.
C'est tombé là. C'est incroyable.
C'est incroyable.
Donc, et en fait. Pourtant, Monoprix, j'ai mis en place des choses pour y arriver et advienne que pourra. Et en fait, tu vois, on est rentré dans un des magasins qui fait partie du même groupe. On a été dans le top 3 et même la meilleure marque en capillaire. Et c'est remonté jusqu'au siège. Et là, on nous a appelés. Tu vois, c'est une porte qui ouvre une porte qui ouvre une porte. Quand j'ai signé le client... Je savais qu'il faisait partie du groupe et je savais qu'il fallait que je sois excellente pour que, tu vois, il y a un plan, même s'il n'est pas officiel, il y a un plan et tu positionnes tes billes juste pour. Et il y a plein de choses que j'ai faites comme ça, Même si tu affiches pas officiellement et tu vas pas crier partout « je veux ci, je veux ça », mais tu mets en place tes pions pour, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir un plan.
Ouais. Est-ce que tu te poses concrètement au début de chaque année en mode « bon allez, cette année ?»
Oui.
C'est ça les objectifs?
Oh, totalement.
Ok.
Totalement. Et puis même des fois je revois ma liste. Qu'est-ce que je peux rajouter à cette liste? Bon, mais totalement. Tu te poses avec toi-même. ou avec d'autres hein, parfois, et puis tu qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça là, sur la prochaine campagne que je vais démarrer, c'est exactement ce que j'ai fait. Au début, on me propose des plans, etc. Et puis je dis non. J'ai fait une liste idéale, et après j'ai dit, et alors j'ai pas pu avoir toute ma liste, hein, je sais pas, c'est pas Noël, mais j'ai fait une liste de Noël, et franchement, 8 choses sur 10 y sont, et on a réussi à faire rentrer ça dans le budget, etc., etc., tu vois.
Mais c'est vrai que parfois, on s'auto-censure. Il faut oser demander, oui. Oser faire.
J'irai plus loin. Des fois, il faut même oser. En fait, il faut juste le verbaliser. Même avec toi-même. Parce que c'est difficile d'annoncer aux autres que tu veux être multimillionnaire, que tu veux que ta marque soit numéro un partout. On va dire, mais c'est quelle péteuse, celle-là. Donc ça, je l'ai gardé. Mais moi, je me le suis dit. Tu vois, c'est sur ma liste. Et le fait de verbaliser les choses... Et c'est la différence entre un... Enfin, pour moi, hein, je ne donne pas de leçons. Hein, mais c'est la différence entre un rêve et un objectif. C'est que tu l'as verbalisé ou que tu l'as écrit quelque part.
Et que tu as un plan. vos
sinon,
rêves ne,
rêve.
Sont, ne, non, ne manquent sont plus plans. Qu'un plan à votre rêve pour que vous l'accomplissiez. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi, Kelly. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, mm-hmm. qui est-ce que ce serait?
Alors, si je devais effectivement écouter quelqu'un au micro, c'est la fondatrice ou plutôt la cofondatrice de La Rosée.
Ok, super. Bah, écoute,
marque de skincare.
Ok, je me renseignerai sur tout ça. Et maintenant, j'ai la question signature du podcast.
Ok.
Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est... ça se rapproche beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure, ne pas mettre dans les mains des autres la clé de ton bonheur, déjà. Et prendre le pouvoir de sa vie, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, et avec l'amour et la passion qu'on a. Pour moi, c'est ça, prendre le pouvoir. Et être assez fort pour le dire au monde.
Mmh. Bah, merci de l'avoir fait.
Merci beaucoup.
Kelly. Écoute, c'était hyper enrichissant. Merci beaucoup pour tout ton témoignage. Pour les personnes qui veulent te suivre et qui veulent en savoir plus sur les secrets de Loli, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Alors, il y a deux choses. Vous pouvez aller directement sur le compte de la marque, Les Secrets de Loli, donc sur Instagram. On est 192 000. Venez. On veut fêter
les
100 000.
Les 200 000, ouais.
Ouais, bientôt. C'est l'objectif là, du trimestre. Et sinon, si on veut suivre mes aventures, que ce soit entrepreneuriales ou de maman, c'est sur Instagram aussi, Lolispoon, LolySpoon.
Super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très bientôt.
À bientôt, merci.
Merci Kelly. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en le partageant en story ou en post sur Instagram en nous taguant @lolispoon et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.